Voilà, alors je vais ouvrir ici une petite parenthèse par rapport à notre analyse du texte Besançon, capitale du street art, en relation au un terme qui se trouve en ligne 31 et que je n'ai pas expliqué tout à l'heure dans la partie lexicale. Il s'agit du terme rupin. J'ai choisi de le garder de côté, de prévoir une explication un peu spécifique parce qu'il renvoie justement à un terme argotique. Alors, je me disais que le phénomène de l'argot n'était peut-être pas connu de manière du moins précise. On en a souvent entendu parler, mais on ne sait pas toujours nécessairement de quoi il s'agit. Et je profite donc de ce terme pour ouvrir une parenthèse justement sur l'argot par rapport à la langue française, parce qu'on peut évidemment considérer que l'argot existe dans pratiquement toutes les langues. Alors, quand on parle d'argot par rapport au français, ben, premièrement, il faut remonter assez loin dans le temps, car le phénomène est très ancien. Certains estiment que dès lors qu'il y a eu des sociétés, qu'il y a eu des humains, l'argot a trouvé lui aussi sa place. Par rapport au français, je dirais que dans certains cas, on fait remonter l'argot à un jargon de métier. Bien souvent, c'est ce jargon qui va être à la base de l'argot. Je pense par exemple au jargon des bouchers, on en reparlera un peu plus loin dans le cours de cette explication. Très souvent aussi, on associe l'argot aux délinquants, et on va voir très tôt dans la littérature, je pense par exemple à François Villon au XVe siècle, on va utiliser la langue des bandits, des gens, des délinquants en quelque sorte. Et donc si on associe les deux éléments à la fois la question, disons, liée à une langue propre à des métiers spécifiques. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on dit parfois « Ah, c'est le jargon médical, on n'y comprend pas grand-chose. » Et donc, si on associe ces deux éléments, à la fois la question d'une langue propre à un métier et à une langue qui est celle des délinquants, on peut considérer finalement que le point commun est la fonction cryptique, parce que justement l'idée finalement de l'argot, c'est de se faire comprendre entre soi à l'intérieur d'un groupe bien défini, qui peut être le groupe professionnel comme le groupe des délinquants, et par là même d'exclure l'autre. Donc on considère finalement qu'il faut être au moins trois pour qu'une situation argotogène puisse avoir lieu. Pourquoi trois? Eh bien, parce que deux vont crypter et le troisième va, en quelque sorte, être exclu. Donc, il va avoir une sorte de fonction connivencielle entre les deux premiers, à travers cet usage linguistique, qui va leur permettre la compréhension et l'exclusion de l'autre. Alors, Victor Hugo disait que l'argot vit sur la langue. Je cite ici Victor Hugo, « Il en use à sa fantaisie, il y puise au hasard et il se borne souvent, quand le besoin surgit, à la dénaturer sommairement et grossièrement », disait Victor Hugo. Ceci pour dire que finalement l'argot s'inscrit aussi dans la langue, ce n'est pas une forme séparée de langue. Victor Hugo dit aussi qu'il puise au hasard dans la langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que finalement, on va assister à des procédés de formation argotique de différentes natures. Ben, par exemple, on pourra avoir recours à un terme qui est un usage courant, avec un sens spécifique. Ce même terme utilisé en argot va avoir un sens différent. Alors juste comme ça, il y en a beaucoup, mais juste à titre d'exemple, je pense au mot caisse. Alors si on est en train de faire court et je vous parle d'une caisse, ben on va imaginer qu'on est dans un langage standard. Et la caisse, à ce moment-là, ben, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est une boîte, c'est un carton dans lequel je peux ranger des objets. Hein. Si je déménage, je vais avoir besoin de carton, de caisse. Dans la langue argotique, la caisse peut avoir un autre sens. J'ai un ami qui m'attend à la sortie de mon travail et il me dit « Ah, j'ai garé ma caisse un peu plus loin ». Bon, eh bien, comme ça, dans un autre contexte, on va comprendre que ce recours sera un recours argotique au mot caisse et qui signifiera une voiture. Très souvent, il s'agit d'une voiture qui n'est pas vraiment de première jeunesse, qui n'est pas tout à fait en bon état. Et donc, on voit bien ici qu'un même terme, caisse, dans ce cas-ci, peut en argot assumer un sens qu'il n'a pas dans le français, disons, courant. Donc, pour les procédés, évidemment, pour les procédés de formation lexicale, ben, il y en a évidemment de différents types. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est juste une parenthèse sur l'argot par rapport à l'analyse de notre texte, mais on va voir par exemple qu'il va y avoir notamment des déplacements de lettres, de voyelles qui vont permettre de former de nouveaux mots, et là je pense en particulier à un type d'argot particulier que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est l'argot débouché. Hein. Évidemment, l'argot de cette époque-là ou de cette profession-là n'est pas exactement le même argot qu'aujourd'hui, et justement, encore pour revenir au terme dont on parlait tout à l'heure, Rupin, vous avez une explication sur le document papier, mais on voit bien que Rupin, dans ses premiers usages, est synonyme de gentilhomme, de bourgeois, dans certains cas, c'est ce que nous disent les dictionnaires. Aujourd'hui, et dans le cas de notre texte, c'est bien Rupin, a une valeur plutôt de riche, d'aisance. Le mot peut à la fois être un substantif ou un adjectif. Je reviens ici un petit moment par rapport au texte. On voit que l'usage de Rupin ici prévoit également un jeu de mots, un jeu sur les sonorités, puisque c'est la déformation du nom du festival qui est à l'origine. C'est un festival bien urbain qui a été déformé à travers se tape par bien Rupin. Et donc, voilà où nous a emmené ce terme bien Rupin à une explication de l'argot. Alors, je disais tout à l'heure, justement, que par rapport à la langue française, l'argot a des origines très anciennes. On fait remonter au XVe siècle avec François Villon, qui a rédigé sa célèbre ballade, la ballade des pendus, dans une langue où il va puiser des termes des malfrats, les termes des délinquants. Ces délinquants de l'époque, on les qualifiait, on parlait de la langue de la coquille, et qui était justement une forme d'argot. Alors ces personnes, sous la torture, ont livré certains de leurs expressions, de leurs termes, qui apparaissent justement dans la ballade de François Villon. Bien, donc voilà, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'argot. Je reviens tout à l'heure sur ce que je disais par rapport à l'argot des professions et aux procédés qui peuvent être utilisés pour former des termes d'argot. Je voudrais citer par exemple le terme loufoque que l'on emploie aujourd'hui en français pour dire d'une personne ou d'une attitude qu'elle est étrange, un peu folle en quelque sorte, et le cas justement de loufoque est assez illustratif parce que il remonte à ce type d'argot que l'on appelle toujours d'ailleurs, mais qui n'est plus vraiment utilisé, cet argot que l'on appelait l'argonji des louches des Luchsherbern, le Largonji des Luchsherbern. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est le jargon, Largonji, jargon des bouchers. Alors, on devine là derrière qu'il y a en réalité un procédé de création lexicale qui correspond à la formation, une formation caractéristique de ce parler, à savoir le remplacement de la première consonne du mot par un L, donc dans le cas de jargon, le J est remplacé par un L. Cette première consonne est quant à elle déplacée à la fin du mot, donc jargon devient Largonji. Ce sont des procédés qui vont être appliqués notamment à d'autres mots et c'est ce qui a donné en français d'aujourd'hui le mot loufoque, auquel on a ajouté justement un suffixe de type argotique, oc, dans ce cas fou, loup, qui a donné loufoque, lui-même tronqué par louf, hein, et qui est devenu dans un procédé, si on va plus loin dans l'évolution de la langue, aujourd'hui on a le terme ouf. Bon, on reviendra là-dessus si nous avons l'occasion de nous voir et de parler de vive voix, ça nous permettra un peu d'échanger de manière plus approfondie. Mais voilà, je voulais vous dire donc justement que l'argot est à la fois, si on veut résumer, l'argot est à la fois très ancien. On l'a retrouvé dans des représentations, aussi dans la représentation littéraire. Je citais Villon, mais évidemment, ce n'est pas le seul. Hein. Aujourd'hui aussi, on peut travailler sur des représentations littéraires de la langue où on va avoir ce recours à des usages argotiques au plan lexical. Ce que je voulais dire, donc, c'est aussi que l'argot d'hier n'est pas exactement l'argot d'aujourd'hui et que si, par exemple, dans les années 50-60, on avait eu certaines expressions du type casser la dalle. Aujourd'hui, si je rentre dans un café et je dis que je voudrais acheter un sandwich, ben, cette expression je voudrais casser la dalle ne serait peut-être pas, même d'ailleurs très probablement pas, comprise de nos jours. Je referme ici la parenthèse argot par rapport au terme que nous avions rencontré dans le texte, Rupin. Merci à vous.